Mais en cette journée de la Saint-Valentin, c'est sûr que beaucoup parmi vous vont se lancer vers le fleuriste le plus proche pour essayer de trouver probablement un bouquet de roses. C'est vraiment la rose qui a la faveur populaire en cette journée. Et je sais pas si vous avez lu dernièrement, d'ailleurs, en début de semaine, il y avait tout un article sur les roses coupées des fleuristes du Québec qui étaient pour la plupart importées, qui étaient produites par de la main-d'œuvre bon marché, qu'elles étaient pleines de pesticides. Puis là, on se disait, bon, franchement, est-ce qu'on devrait encourager cette industrie qui est même pas locale. Puis là, il y avait, c'était intéressant parce qu'on apprenait d'ailleurs qu'il y avait chez nous des producteurs, entre autres, on parlait de Rose Drummond qui suffisait pas à la demande. Puis il y avait même certains éleveurs d'orchidées qui disaient, ben, allez plutôt vers les fleurs en pot, vers une orchidée en fleurs. Et là, mon invitée, elle, qui est une chroniqueuse horticole que vous connaissez bien, Mélanie Grégoire, qu'on a déjà eue à l'émission, elle nous dit finalement, faites donc vos fleurs chez vous, c'est un peu ça, et semez vos affaires vous-même. Moi, j'aime cette tendance à revenir nous-mêmes, à se mettre les deux mains dans la terre. Bonjour Mélanie.
Bonjour, et c'est très drôle, j'ai fait ce matin, parce que j'ai un fleuriste, et j'ai fait ce matin, à la demande d'un client, un bouquet d'une douzaine de sachets de semences pour le potager pour sa conjointe.
C'est une super belle idée.
Oui.
Et là, évidemment, je faisais des blagues là-dessus avec les auditeurs, parce que je disais là, on est ensevelis sous la neige, puis hein, un peu plus qu'on en voudrait. Et puis, alors, on se dit pas on va parler de jardin ou de semis, mais pourtant, au contraire, c'est maintenant qu'il faut s'en jaser.
Oh que oui, et c'est maintenant qu'il faut planifier finalement nos achats, nos semences. Les fêtes de semences sont déjà commencées. Ce week-end, d'ailleurs, à Montréal, c'est au Jardin botanique de Montréal, la fête des semences. Ensuite, 23-24 février à Sherbrooke, début mars à Québec. Alors, ça se promène partout au Québec. Et là, c'est vraiment, je vais dire, jouissif parce que vous avez devant vous, dans ces fêtes-là, les semenciers, les gens qui, année après année, vont cultiver ces légumes-là. Ils vont pouvoir vous en parler. Ils vont pouvoir vous parler de la richesse qu'on a dans notre terroir québécois. Vous allez pouvoir trouver des choses qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs, des légumes perpétuels qui reviennent d'une année à l'autre. Sérieusement, si vous aimez un tantinet le potager, et même si vous débutez cette année avec un premier potager, payez-vous ce plaisir d'aller dans une fête des semences. Vous allez partir du bon pied et ils vont vous donner des trucs qui vont vous servir toute la saison.
Tu en donnes beaucoup de trucs dans ton nouveau livre, Les carnets du jardinier, les quatre saisons de votre potager. Et d'entrée de jeu, tu commences en parlant aussi des fleurs de la Saint-Valentin. Fait que je me suis dit, mon Dieu, ça fait œuvre utile deux fois plutôt qu'une, parce que tu donnes des trucs pour garder ces fleurs. On va reparler des semis, bien sûr, mais
oui.
En ce qui concerne les fleurs de la Saint-Valentin, écoute, aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de te poser la question. Comment faire en sorte qu'elles durent le plus longtemps, ces fleurs?
Alors, pour les chanceux, chanceuses, souvent, notre premier réflexe, c'est de les mettre dans l'eau froide. Allez-y plutôt avec de l'eau tiède, ça va vraiment fonctionner beaucoup mieux. Et vous savez, souvent, les fleuristes vont vous donner le sachet d'agent de conservation.
Ouais.
Au lieu de le mettre tout seulement la première fois, vous allez le diviser en trois. Alors, aujourd'hui, vous mettez juste le tiers du sachet, dans deux jours, l'autre tiers, et ensuite, le dernier, la quatrième journée. Si vous n'avez pas ce fameux sachet, c'est pas grave, j'ai deux trucs pour vous. Premièrement, soit vous prenez un demi-comprimé d'aspirine que vous écrasez, que vous allez dissoudre dans l'eau, ou, puis je le souligne là, ou un bouchon de 7-Up que vous allez mélanger dans l'eau. Ne faites pas les deux, ça va annuler l'effet. Et l'important, là, c'est vraiment changer l'eau aux deux jours et recouper vos fleurs, non pas à plat, mais en biseau. Comme ça, les fleurs vont vraiment être capables d'aller chercher les nutriments dans l'eau et de rester vigoureuses. Des roses, là, normalement, ça devrait vous rester beau au moins de 5 à 7 jours.
5 à 7 jours, ouais, oui. Et même plus longtemps, si on, y met de l'amour et des soins, comme tu viens de décrire. L'eau de Javel, une petite goutte d'eau de Javel aussi.
Moi, j'aime moins. J'ai déjà vu de la décoloration avec l'eau de Javel, donc c'est pas mon truc premier. Mais si vous avez juste de l'eau de Javel, allez-y avec parcimonie. Moi, je vous dirais un petit peu moins que trop pour pas avoir une décoloration au niveau des fleurs.
Écoute, et une pièce de monnaie? Tu sais, une scène noire ou un...
Ah, ben ça, mon grand-père
moi,
m'en
parlait.
Moi, je fais
ça, moi. Ouais.
Moi, je l'ai jamais essayé dans les fleurs coupées, mais mon grand-père, lui, quand il plantait des hydrangées, notamment bleues, pour que ça reste bleu, il garochait, littéralement. C'était ça, à l'époque, le mot.
Il vidait son porte-monnaie.
Il vidait son porte-monnaie dans la fosse de plantation et il me disait, ma petite fille, comme ça, on va avoir des hydrangées bleues, ça va rester bleu.
Ouais. Bon, le carnet du jardinier, tu l'as conçu pour qu'on puisse justement s'en servir comme vraiment un carnet de notes. Oui. Il y a plein d'astuces là-dedans. Il y a des trucs de ta grand-mère, de ton grand-père. Toi, tu viens d'une famille, en fait, d'horticulture.
Vraiment. Hein? Vraiment.
C'était des horticulteurs aguerris dans ta famille, Mélanie.
Je suis née dans les choux, littéralement. C'est une passion, moi, qui m'a été transférée de ma grand-mère. J'avais la chance tous les étés d'aller passer, comme à l'époque, là, mes étés avec mes cousins, cousines au Lac et Chemin, un village de Bellechasse. Et là, ma grand-mère nous apportait au potager. Tu sais, à l'époque, c'était vraiment des potagers nourriciers. Alors, c'était pas juste un loisir. Fallait faire le potager. Et elle nous tournait ça en plaisir et elle m'a donné comme ça une connaissance incroyable. Et mon premier livre que j'ai fait, Les quatre saisons de votre potager, je l'ai fait justement à partir de ces écrits dont j'ai hérité. J'ai hérité, moi, de ces carnets de notes à ma grand-mère. Et c'est de ça que je me suis inspirée pour écrire mon premier livre, Les quatre saisons de votre potager.
Et ton grand-père, il mettait un peu aussi du sien, parce que lui, ton grand-papa, comme tu l'écris, lui, il disait que la lune avait une influence sur la croissance des plantes.
Oui, c'était vraiment les connaissances de mon grand-père. Il nous parlait de l'activité lunaire. Il fallait absolument semer dans le croissant de la lune pour que ça pousse bien. Et il y a encore aujourd'hui des calendriers lunaires que les gens ne jurent que par ça. Donc, si les gens veulent s'essayer avec le calendrier lunaire, là, sérieusement, c'est assez compliqué. Moi, je suis toujours restée dans le croissant, décroissant de la lune et la pleine lune, surtout pour les plantations. Parce que souvent, là, puis je le dis, début juin, là, la majorité des régions au Québec, la pleine lune du début juin, vous allez avoir un gel au sol. Alors, il faut se méfier de cette pleine lune-là. Donc, oui, on peut se fier à la lune.
Et toi, tu dis, toutefois, pour les semis, la plantation, tu préfères te fier aux prévisions météo et saisonnières plutôt qu'à la lune.
Oui, en effet. J'ai des serres de production, puis je vais être honnête avec vous. On travaille 7 jours sur 7. Les journées qui sont pas favorables, on rentre quand même au boulot.
Je vais donner nos numéros pour que les gens qui ont des questions, entre autres sur les semis, sur justement comment partir son jardin pour la saison qui s'en vient. Parce que tu le dis, faire ses semis, là, ça permet d'avoir de la verdure dans la maison dès le mois de mars. Là. Oui. Et c'est aussi une façon d'obtenir des variétés qu'on trouverait pas dans un centre de jardinage puis qu'on pourra planter éventuellement si on a de la place sur notre balcon, sur notre galerie ou dans notre jardin. Donc, notre numéro, c'est le 514-790-9850. Vous pouvez téléphoner et Mélanie Grégoire va répondre à vos questions. Sans frais partout au Québec, vous faites le 1-866-790-9850. Bon, là, on est à la veille de la fin de semaine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là, pour s'y mettre, Mélanie?
Si vraiment vous voulez jouer dans la terre ce week-end, allez-y avec les fines herbes. Les fines herbes, c'est le fun parce que même si c'est pas ces plants-là vous allez remettre au potager, vous allez pouvoir tout de suite les déguster dans la maison dans 3, 4, 5, 6 semaines. Première fine herbe que je vous suggère, c'est la fameuse coriandre qui, de toute façon, doit être ressemée quand même assez souvent aux 3 semaines, si vous voulez toujours en avoir, parce que la coriandre, c'est une herbe qui est difficile à garder à long terme. Donc, moi, ma stratégie, c'est simplement achetez-vous un gros paquet de semences à ce temps-ci de l'année. Semez-en aux 3 semaines et vous allez en avoir pratiquement jusqu'au printemps.
On sème ça dans quoi? Quel genre de terre il faut?
Il faut vraiment un terreau pour les semis et les boutures. Des fois, il y a des gens qui vont utiliser un terreau d'intérieur. Si vous êtes plus expérimenté, vous pouvez y aller avec un terreau d'intérieur. Mais la différence, c'est que ça se passe au niveau de la rétention de l'eau. Ce qui fait mourir les semis, là, 95 % des fois, c'est un excès d'eau. Donc, les gens vont trop arroser. Si vous utilisez un terreau qui est trop riche, trop lourd, ça va retenir l'eau. En plus que la luminosité est pas à son meilleur présentement, parce qu'il fait clair pas si longtemps que ça dans la journée. Ça va vraiment faire moisir. C'est ce qu'on appelle la fonte du semis, notamment. Mais donc, mieux vaut y aller avec un terreau pour semis.
Et tu dis d'empotage, donc le pot, est-ce qu'il faut absolument des petits trous en dessous? Est-ce que tu peux mettre ça? Parce qu'il y a toutes sortes de pots. Il y a des gens qui font pousser des semis. J'ai vu ça sur Pinterest et Instagram, c'est magnifique, c'est joli, mais je me demandais est-ce que c'est vraiment la bonne façon. Dans des pots maçons, t'as pas d'évacuation par en dessous. Est-ce que ça peut quand même marcher?
Ça peut marcher, tout peut marcher. C'est vraiment, faut que tu sois habitué au niveau de l'arrosage. Si vous êtes moindrement pas habitué au niveau de l'arrosage, c'est là que tout se joue. Moi, je vous conseille d'y aller avec quelque chose qui est troué en dessous. Comme ça, l'excédent d'eau, si vous avez le coude un peu trop léger, l'excédent d'eau va s'évacuer. Alors que si vous faites ça dans un pot maçon, ou même, tu sais, il y a des gens qui prennent on peut réutiliser, par exemple, là, des chopines de champignons ou même des contenants de yogourt. Les contenants de yogourt de base ne sont pas troués. Faites simplement avec un ciseau, un X en dessous. Assurez-vous de désinfecter vos pots avec de l'alcool à friction ou encore là, l'eau de Javel. Et vous pouvez réutiliser ces pots-là tout à fait.
C'est génial. Puis donc, comment on fait là, pour savoir s'il faut mettre de l'eau ou si on en a trop?
Ah, s'il faut y aller au toucher. Ça, c'est
bête de même, simple comme ça.
Ah oui, simple comme ça. Si c'est complètement sec sur la surface de votre peau, mais que quand vous rentrez légèrement votre doigt dans la terre, si vous sentez un peu d'humidité, vous êtes correct, attendez à demain. Et là, à ce moment-là, le lendemain, vous y allez. Puis c'est drôle parce que je dis souvent, dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Si vous n'êtes pas sûr, si vous avez besoin d'arroser, attendez une journée de plus. Mais j'ai mon cousin l'année dernière qui m'a jeté à terre parce que lui... À chaque journée, il était dans le doute, puis il n'a pas arrosé pendant 2 semaines. J'ai dit non, là, faut quand même arroser un petit peu plus souvent.
Puis moi, tu parlais de lumière là, oui. Avant la pause, la lumière, on le met près d'une fenêtre, c'est suffisant?
Près d'une fenêtre, si vous avez une fenêtre est ou sud, ça peut être suffisant. Sinon, sérieusement, il y a de l'éclairage artificiel qui est beaucoup plus abordable qu'il y a 10 ans. Là. Vous allez en trouver dans tous les centres de jardin. C'est pas cher, ça vaut vraiment la peine. Mais attention, ce n'est pas ouvert 24 heures sur 24. L'éclairage artificiel, on utilise ça 10 à 12 heures par jour maximum pour avoir des plants qui ne sont pas suréclairés, qui vont devenir chétifs.
Ah, je ris parce que Jean-Christophe, mon technicien, dit, tu vois, dans un coin où ils font de la culture de marijuana, ils sont tous équipés. C'est oui. Un très bon point, Jessie. Merci beaucoup. Mélanie, bouge pas. Tu restes là. Mélanie est dans notre studio de Sherbrooke. On en profite pour saluer tous les gens de la région d'Estrie. Et bien sûr, un peu partout au Québec, vous nous dites, si vous avez des questions, vous nous dites ce que c'est. Mélanie Grégoire va y répondre. Elle est chroniqueuse horticole. Elle vient de lancer Carnet du jardinier, les 4 saisons de votre potager. Les semences, c'est maintenant. Moi, je vais faire ça là, en fin de semaine. T'sais. Je vais faire pousser mes petites fines herbes. De toute façon, ça met de bonne humeur. Hein? On revient tout de suite après ceci. Avez-vous commencé à penser à votre jardin, André?
Oui, madame. J'ai commencé à y penser. Et ma question était celle-ci. Les graines phytogiques, comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Ils ont-ils un code d'identification? Il y a une compagnie plus recommandable qu'une autre, avec Mosanto et Tentacule partout. Là, on se pose des questions.
Oui, des graines bio, effectivement. Mélanie Grégoire?
Oui, au Québec, il y a la compagnie qui s'appelle Écoumène qui produit des semences biologiques. Sinon, habituellement, les semences biologiques sont vraiment très, très bien indiquées sur chacun des sachets. Mais je vais vous amener ailleurs. Au-delà du biologique, au niveau des semences, moi, j'aime encore mieux acheter local parce qu'il y a beaucoup de petits semenciers qui n'ont pas les moyens présentement d'aller chercher une accréditation biologique. Elles le sont, par contre. Et au niveau local, je trouve ça encore plus intéressant qu'une semence biologique qui vient, par exemple, de la Chine. Donc, à ce moment-là, je vous laisse prendre la décision. Mais Écoumène, c'est une bonne semence québécoise certifiée bio.
Et tu dis que les semences locales seraient plutôt tendance bio, c'est ça? Elles n'ont pas forcément l'appellation parce que ça coûte cher. C'est une industrie, ça, l'appellation du bio. Mais elles le seraient de par le fait même?
De façon, je n'ose pas vous dire un pourcentage, là, mais les petits semenciers, la très vaste majorité, je les connais personnellement, n'utilisent pas de produits chimiques dans leur potager.
Tu m'as donné un sachet de Terre Promise, ce qui est une semencière artisanale. Et c'est une tomate mémé de Beauce qui a une histoire fabuleuse. En fait, l'histoire dit qu'en 1995, Monsieur Lessard de Saint-Joseph-de-Beauce a rénové une vieille maison. Et il a trouvé entre les planches du grenier une enveloppe avec 300 graines de tomates dedans. Là, il les a semées et il y en a seulement 3 qui ont germé. La maison était abandonnée depuis au moins 60 ans et cette tomate est maintenant appelée Mémé de Beauce et fait partie de notre patrimoine. C'est apparemment écologique. C'est des belles histoires, ça.
Ah, vraiment, on se réapproprie notre histoire en plus de notre culture à tous les sens. Puis la Mémé de Beauce, sérieusement, à chaque année, elle réussit à se trouver une place dans mon potager. Elle est succulente.
Isabelle a une question.
Oui, bonjour. Bonjour. Nous, on a la chance d'avoir un immense champ à exploiter. Fait que là, on a planté des arbres fruitiers de toutes les sortes, puis là, on s'attaque au jardin. Ma question, c'est, est-ce qu'il y a des légumes? Nous, on aime beaucoup les choux, donc comme le chou-kale, est-ce qu'il y a des légumes qui peuvent survivre au début de l'hiver?
Vous voulez dire aux températures plus froides, le commencer plus tôt?
Oui, c'est ça, à la fin, oui.
Au début et à la fin de l'hiver. C'est drôle parce que hier, il a vraiment fallu que je me retienne pour pas aller me chercher quelques carottes dans mon potager d'hiver. Je trouvais que j'avais trop à pelleter pour une carotte pour mettre dans ma soupe.
Mais encore
vraiment...
des carottes oui! dans ton jardin? Tu veux... Oui! Voyons donc.
Oui, j'en ai encore. Alors, carottes. Panais, ça, c'est des variétés qui peuvent rester très longtemps à l'hiver et vous pouvez, poireaux aussi, persil, même chose, que vous pouvez récolter pratiquement tout l'hiver avec une certaine protection. Moi, j'utilise la paille et une mini-serre non chauffée, bien sûr, en plastique. En début de saison, épinards, radis, mesclun, c'est aucun problème, vous pouvez semer ça très tôt. Moi, d'habitude, mes premiers semis que je fais toujours en couche froide, ça, c'est vraiment juste un carré de bois avec un plexiglas que je mets par-dessus la terre. Moi, habituellement, fin mars, début avril, dès que la neige a fond, je fais mes premiers semis. Laitue aussi, habituellement, ça fonctionne bien. J'ai vraiment une très, très longue portion de potager chez moi.
Une question de gars, me dit Martin. Il dit, veut savoir comment il peut faire pour conserver son plant de basilic plus longtemps qu'une semaine à la maison. Ça, c'est un bon point. Là. C'est ceux qu'on achète qui sont déjà plantés. Hein?
C'est dur parce que ceux qu'on achète à l'épicerie sont souvent produits sous éclairage artificiel pour accélérer justement la pousse. Donc, si vous avez un tantinet pas assez de lumière à la maison, c'est sûr qu'il va dépérir assez rapidement. Payez-vous le plaisir de le faire pousser vous-même. Ça va être plus long, par exemple, que l'instantané de l'acheter à l'épicerie, mais là, ça va être beaucoup plus facile à garder à la maison parce qu'il va avoir grandi dans vos conditions.
Ben voilà. Écoute, Mélanie Grégoire, merci beaucoup. Je sais que c'est une journée très occupée pour toi à cause des fleurs de la Saint-Valentin.
Une belle journée.
Bonne journée et on se reparle bientôt. Là, on va faire nos semis. Peut-être que d'ici un mois, on se reparle pour la suite. En attendant, il y a le carnet du jardinier qui peut vous aider, les quatre saisons de votre potager de Mélanie Grégoire. Merci à tout le monde puis on se retrouve demain. Passez une bonne journée. Joyeux Saint-Valentin.